Renault 5 revient pour un second coup de foudre. 100% électrique jusqu'à 410 km d'autonomie et fabriqué en France.
Profitez de Renault 5 E-Tech électrique avec borne de recharge offerte et jusqu'à 4000 euros de bonus écologique. Borne d'une valeur de 990 euros hors taxe pour un forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 31 décembre, voire conditions sur service-public.fr et Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Alors qu'elle répète la nouvelle production des Fêtes d'Hébé de Rameau à l'Opéra Comique, spectacle à découvrir dès vendredi, Léa Desandré passera un petit moment à notre micro. Celle qui fut une bouleversante Médée la saison dernière à l'Opéra de Paris a bien l'intention d'élargir encore ses horizons, de déployer de nouveau ses talents de tragédienne tout en se délectant dans des répertoires plus légers, à l'instar de ses Fêtes d'Hébé qu'elle interprète ici en famille avec William Christie et les Arts Florissants. Avant de la retrouver à notre micro, quelques nouvelles du monde musical. On découvre depuis quelques jours les programmations des grands festivals de l'été. Celui de Bayreuth vient de dévoiler son édition 2026 qui marquera le 150e anniversaire de ce grand rendez-vous wagnérien, mais un anniversaire qui s'annonce bien plus modeste que prévu en raison des difficultés financières auxquelles il est confronté. Il est nécessaire d'adapter le planning initial de la saison anniversaire afin de sécuriser la planification de la saison pour les années suivantes, nous dit la direction du Festival de Bayreuth. Sur les 11 opéras initialement prévus, 7 seulement seront présentés. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site et sur l'application de Radio Classique. La grève se poursuit à l'Opéra National de Paris, un mouvement qui concerne les danseurs du ballet. Plusieurs représentations du spectacle Paquita de Pierre Lacotte ont ainsi été annulées. C'est aussi le cas pour celle de Play, prévue ce soir, un mouvement qui porterait sur les inégalités de traitement entre les membres de l'orchestre et les artistes du ballet. Là encore, c'est à lire sur le site et l'application de Radio Classique. Le Turc en Italie de Rossini à l'affiche dès demain de l'Opéra de Lyon, dans la mise en scène particulièrement drôle et survoltée de Laurent Pelli, et avec quelques brillants rossiniens dont Florian Sempé sous la direction de Giacomo Sagripanti, l'un des grands spécialistes de ce répertoire. Un spectacle qui s'annonce jubilatoire pour les fêtes de fin d'année, à savourer dès demain donc et jusqu'au 29 décembre à Lyon. Un programme de fête également à Lille. Le guitariste Miloš sera l'invité de l'Orchestre National de Lille du 11 au 17 décembre au Nouveau Siècle, mais aussi en tournée à Boulogne-sur-Mer et Carvin. Orchestre qui sera placé pour l'occasion sous la direction de Jean-Marie Zetouni et déploiera de multiples couleurs, des couleurs particulièrement chatoyantes dans le concerto d'Aranjuez de Rodrigo, le capriccio espagnol de Rimsky-Korsakov ou encore le tricorne de Manuel de Falla.
Thank you.
Quelques notes du concerto d'Aranjuez de Rodrigo que le guitariste Miloš a enregistré avec Yannick Nézet-Séguin, l'Orchestre Philharmonique de Londres, concerto qu'il jouera ces prochains jours avec l'Orchestre National de Lille et Jean-Marie Zettoni.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est à l'Opéra Comique que je suis allée rencontrer Léa Desandré entre deux répétitions de la nouvelle production des Fêtes des Bées de Rameau, mise en scène par Robert Carsen et dirigée par William Christie à la tête de César Florissant. Un spectacle à découvrir dès vendredi. L'Opéra Comique, l'une des maisons chères au cœur de la mezzo-soprano, où elle s'épanouit depuis quelques années, comme elle me l'a confié.
J'ai de jolis souvenirs, c'est ici que j'ai fait mes débuts parisiens. C'était, je crois, en 2018, dans le rôle d'Alcyone. Et j'y suis revenue exclusivement pour du répertoire français, Hippolyte Arici, Etienne Arcadiego, qui était aussi un pastiche de Rameau. Donc finalement, pas mal de Rameau, il n'y a que Orphée aux Enfers, qui déroge un peu à la règle, mais en même temps, c'est de la musique française. Donc je me sens un peu dans le temple de la musique vocale française des siècles passés, donc c'est toujours joli d'être ici.
Et puis en famille, hein, puisque vous êtes avec les Arts Florissants, William Christie. William Christie, dont on fêtera dans quelques jours les 80 ans. En quelques mots, qu'est-ce qu'il a représenté pour vous dans votre parcours, William Christie? Si on peut résumer en quelques mots, puisqu'on pourrait en parler pendant des heures.
Je dirais que c'est une figure de bienveillance et de confiance qui, dès le début, m'a laissé m'épanouir et continue de me guider sur ce chemin, de m'aider à me connecter à qui je suis en tant qu'artiste et à m'offrir de très beaux rôles qui correspondent aussi à mon développement artistique.
Alors, l'un des derniers rôles que vous avez chanté avec William Christie, c'était cette Médée de Charpentier à l'Opéra de Paris, la saison dernière, qui a ébloui le public. Vos talents de tragédienne ont ébloui toutes les personnes qui ont eu la chance d'assister à cette production. Qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous, Léa Desandré, cette Médée? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après pour vous en tant qu'artiste, en tant que tragédienne?
Oui, je pense que vous avez très bien saisi la puissance qu'a eu Médée dans mon existence. Je vais utiliser des mots forts. Il y a vraiment un avant et un après. Il y a eu une sorte de d'épanouissement total artistiquement et aussi humainement. J'étais dans un lieu dans lequel je me sentais en sécurité, que ce soit avec l'équipe des Arts Florissants ou l'équipe de l'Opéra de Paris. C'était le lieu idéal pour me mettre en danger, si je puis dire, parce que c'était une prise de rôle qui aurait pu être périlleuse et qui m'a demandé d'entrer un peu en introspection avec moi-même et d'aller dépasser mes limites. Et je vois le futur très différemment depuis Médée. J'ai envie d'aborder des rôles davantage de tragédienne, en tout cas de vraiment me consacrer au personnage lorsque je choisis mon répertoire et de ne pas oublier que j'aime chanter, mais j'aime jouer. Et ce qui a été merveilleux aussi dans cette production, c'est qu'on m'a offert une part presque physique. Je pouvais jouer avec mon corps comme instrument d'émotion. Et ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, dans la production des Fêtes des Bées que l'on va donner ici, j'ai une petite part dansée. Et bon, il ne va pas falloir que ça devienne automatique. Mais si c'est une clé qui me permet de développer un aspect du personnage, c'est vrai que la danse me fait beaucoup de bien. Elle me permet aussi d'entrer dans mon corps et je crois je ne sais pas si je peux dire de mieux chanter, mais en tout cas de me sentir plus à l'aise dans l'instrument pour pouvoir chanter plus librement.
Thank you.
Léa Desandré dans un petit extrait de la répétition générale de Médée de Charpentier dans la production de l'Opéra de Paris donnée en mai dernier. Alors, Léa Desandré s'illustre aujourd'hui dans un tout autre répertoire, l'opéra comique, beaucoup plus léger, avec ses Fêtes d'Hébé, une œuvre qui appartient au genre de l'opéra-ballet. Et elle nous éclaire justement sur ce spectacle dans lequel elle incarne trois femmes amoureuses.
La complexité des Fêtes d'Hébé, c'est qu'on est sous des formes de tableaux d'entrée. Donc, je chante trois personnages très différents au sein de la soirée, qui sont dans des intrigues toujours amoureuses, mais qui n'ont pas les mêmes difficultés dans leur parcours. Donc on a très peu de temps pour entrer dans l'émotion du personnage, pour se faire une intrigue aussi. Donc je le prends avec davantage de distance, comme vous le disiez bien, c'est un opéra-ballet, donc le drame n'a pas le cœur du projet. Donc on s'y amuse. Je crois que notre metteur en scène, Robert Carson, l'a très bien compris et en a fait un objet très divertissant, léger, tout en pointant vraiment bien les instants un peu dramatiques, parce que c'est aussi ce qui fait le plaisir d'une soirée. Pour avoir de beaux moments légers, il faut qu'on ait un peu d'intensité dramatique. Donc on les a un peu soulignés pour créer du contraste. Mais ouais, c'est une aventure très différente. Après, j'ai la chance de retrouver quasiment la même équipe que Médée. On est presque la moitié, voire un peu plus du plateau, qui sommes les mêmes chanteurs. Donc, on se retrouve dans la joie et c'est facile. En scène, comme on se connaît et qu'on s'est beaucoup côtoyé, il y a une forme de liberté. Il y a même un des chanteurs avec lequel j'ai fait le Jardin des Voix en 2015, donc on se connaît aussi depuis très longtemps. Ça, c'est agréable de pouvoir se permettre de faire des bêtises et de se faire confiance pour pouvoir faire des bêtises, pour créer du divertissement pour le public.
Et puis entre deux représentations, vous donnerez même un concert avec Thomas Dunford, vous donnerez votre programme Idylle, c'est ça ?
Oui, le 20 décembre, sur le plateau de l'Opéra Comique, un programme de musique française dans le lieu parfait pour faire de la musique française. Moi, je m'en réjouis, ça va être un beau moment juste avant les fêtes, il faut venir.
Pour apaiser.
Néer, une mélodie de Reynaldo Hahn, chantée par Léa Desandré avec Thomas Dunford au luth. Un extrait de cet album Idylle, dont ils redonneront le programme en concert le 20 décembre à l'Opéra Comique. Entre deux représentations de ces fêtes d'Hébé, nouveau spectacle de l'Opéra Comique, mis en scène par Robert Carson et dirigé par William Christie, avec également dans la distribution Emmanuel de Negri, Anna Viera Leite, Cyril Ovitti ou encore Marc Moyon, un spectacle à découvrir du 13 au 21 décembre, diffusé sur Mezzo et Medici, le 21 décembre justement. Et c'est à l'Opéra de Paris que Léa Desandré débutera l'année 2025, puisqu'elle participera le 24 janvier au grand gala des 150 ans du Palais Garnier, autre maison à laquelle la chanteuse est particulièrement liée.
Oui, je tiens énormément à cette histoire avec l'Opéra de Paris. C'est un lieu qui m'a toujours fait rêver. Étant parisienne, j'ai beaucoup côtoyé la salle du côté public. Donc, que ce soit dans mes débuts en Chérubin en 2021 ou cette dernière saison où j'ai eu la chance d'y chanter, à chaque fois que je reviens à l'Opéra de Paris, que ce soit à Bastille ou à Garnier, j'ai vraiment cet émerveillement de me dire « Waouh, je chante ici !» de croiser des danseurs dans les couloirs, d'incroyables chanteurs, musiciens que j'admire beaucoup. Donc c'est toujours très inspirant d'aller dans cette maison. Et puis de participer à ce gala, c'est un honneur immense. Et en plus, cette année, je suis la marraine de l'AROP, donc de l'association de l'Opéra de Paris. Donc je me sens d'autant plus impliquée dans l'histoire de la maison. Et ça fait sens d'être là pour ce beau moment festif.
Alors, parmi les moments forts de l'année 2025 qui se profile, il y a une prise de rôle au mois de mars à Zurich, c'est Poppée dans Agrippina de Händel. Qu'est-ce qu'il représente ce rôle de Poppée pour vous ?
C'est un très beau rôle händelien, plus sopranisant que ce que j'ai pu aborder jusqu'à présent, parce que les rôles de Händel, j'ai chanté Sesto dans Jules César, Ruggiero dans Alcina, dernièrement Ariodante, donc des rôles de travestie. Là, ce sera le premier rôle de femme que j'aborderai, qui fait aussi un peu partie de cette espèce de transition de répertoire où j'aime toujours autant les rôles en pantalon, mais j'ai envie de me permettre d'être aussi pleinement Léa, c'est-à-dire une femme, parce qu'en étant toujours dans ces costumes travestis, il y a une partie de moi qui s'est toujours cachée aussi, et Médée m'a fait aussi réaliser ça. Donc, cette Poppée, j'ai hâte aussi parce que c'est un personnage un peu plus terrible que ceux que j'ai pu aborder jusqu'à présent, hormis Médée. Donc, je suis très curieuse aussi de cette collaboration avec la metteuse en scène avec laquelle j'ai jamais travaillé. Enfin, c'est tout un nouveau plateau, tout en étant dans une maison comme Zurich où je me sens à l'aise. C'est un petit bijou, hein, cet espace. On peut y faire toutes les couleurs qu'on veut vocalement. Donc voilà, j'ai hâte d'explorer cette partie un peu plus sopranisante de ma voix qui est aussi le début des saisons à venir où je vais aborder des rôles un tout petit peu plus aigus et on va voir, c'est exciting.
Et la vocalité händelienne, c'est un plaisir particulier aussi.
Oui, j'aime beaucoup. C'est un compositeur qui sait écrire pour la voix, qui met en avant tout l'ambitus de la voix. On peut s'amuser dans tous les extrêmes de l'instrument. La difficulté chez Händel, c'est toujours ces grands airs à da capo, donc avec des reprises qu'il faut orner, qui n'en finissent pas. Donc c'est aussi souvent le challenge du metteur en scène d'arriver à raconter une histoire pendant 6 minutes alors qu'on dit juste pendant 6 minutes « je l'aime » ou « je le hais ». Donc voilà. Mais nous, ça nous permet de nous remettre aussi beaucoup en question sur ce qu'on fait vocalement, les couleurs qu'on veut apporter dans l'air. Non, c'est un compositeur qui me permet de me développer vocalement, contrairement à d'autres compositeurs de musique baroque qui peuvent être un peu plus contraignants pour l'instrument. Händel, il va vers Mozart et tout le répertoire un peu plus tardif qui permettent à l'air de rouler, comme j'aime dire, à l'air de s'écouler et donc du coup à l'instrument de s'épanouir.
He surely died. threatening vengeance, fly, 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 fly from the threatening vengeance, fly, fly, fly from the threatening vengeance, fly. Yet it is too late, yet it is too late. Avoid your fate.
Un air étourdissant de Handel tiré de l'Occasional Oratorio, chanté par Léa Desandré avec l'ensemble Jupiter de Thomas Dunford. Alors, vers quel univers, quel personnage Léa Desandré a-t-elle envie d'évoluer aujourd'hui? Elle s'est confiée justement sur ses projets à venir.
J'ai très envie de musique française, mais de musique française un peu plus tardive. L'année prochaine, je ferai mes débuts en Mélisande. Dans ma liste, il y a aussi Cendrillon de Massenet, Blanche de la Force dans le dialogue, donc toutes ces grandes figures féminines du répertoire plus tardif français. Et après, toujours Mozart, mais avec des rôles un peu plus soit sopranisants, soit dramatiques. Donc, il y aura Idamant, il y aura Sesto dans La Clémence de Titus, et toujours un peu d'italien un peu plus léger, donc j'ai des Rosines qui vont revenir aussi. C'est vrai que pour le futur, il y a du répertoire plus tardif globalement qui s'est installé. Je garde mon amour pour le répertoire baroque, mais j'ai une passion qui est en train de se développer pour ce répertoire autour de la période de Debussy, même commencer à regarder des airs de concert de Poulenc, de Ravel. Voilà, des textures un peu plus éphémères et je sais pas, d'avoir un contact aussi avec la langue française, ça m'importe beaucoup. Et dans une musique qui me permet de chanter, là où la musique baroque est un peu plus contraignante pour l'instrument.
À travers également la mélodie, puisque vous allez chanter des mélodies avec Alexandre Kantorov, qui nous confiait récemment à quel point le texte et le chant en général l'inspirent. C'est un pianiste qui a une palette de couleurs extraordinaire. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter, Alexandre Kantorov?
Sa poésie. J'ai hâte de faire de la musique avec lui parce que je pense qu'on va être dans un vrai dialogue. Je crois que comme c'est un grand musicien, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait s'effacer. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire, notamment quand je fais de la musique avec Thomas Dunford, c'est m'oublier pour entrer dans l'instrument de l'autre. J'y vois vraiment une sorte de entrée en fusion musicale et au service du texte et d'une harmonie. Donc j'ai hâte de démarrer ce programme, surtout que ça fait très longtemps que j'attends de faire un duo avec piano et que je rêvais d'Alexandre et que du coup le rêve devient réalité.
Mais lui aussi a hâte, hein, il nous l'a confié récemment. Cette année 2025 marquera quelque part vos 10 ans de carrière, si on prend comme point de départ le Jardin des Voix en 2015. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette décennie, cette première décennie de votre carrière?
Bah, ça me touche beaucoup de me dire, de regarder aujourd'hui les rêves que j'ai réalisés, de regarder toutes ces personnes qui me font confiance, qui prennent des risques aussi pour moi. Cette famille que je me suis créée dans le milieu de la musique, mais un peu plus largement aussi. Enfin, moi, ça me touche toujours autant à chaque fois de vous voir sur tous mes projets. Il y a vraiment des liens humains qui se font dans tous les domaines. Donc ça, j'en suis extrêmement reconnaissante. Je suis quelqu'un de très fidèle aussi. Donc, de voir qu'avec William Christie, on fait toujours de la musique ensemble et on se retrouve quasiment de manière annuelle pour de beaux projets. Je suis fière d'arriver à conserver ces rapports. Et la petite Léa à l'intérieur, je pense qu'elle ferait la danse de la joie en regardant aujourd'hui où j'en suis. Et je crois que la clé pour le futur, c'est de continuer à rêver, continuer à m'émerveiller, à me dire que tout est possible, mais qu'en même temps, rien n'est important, et qu'il faut le faire avec le cœur et conserver cette flamme, en fait. J'ai la crainte qu'un jour, cette flamme s'éteigne parce qu'elle est tellement puissante que je me dis, mais si elle n'était pas là, quel serait mon moteur? Mais je pense qu'en cultivant, voilà, comme ça, des beaux rapports, en cultivant un contact toujours avec des œuvres qui me parlent et qui sont choisies de manière très attentionnée, bah, je vais conserver mon amour pour tout ça et donc la flamme sera toujours là. Et si un jour la flamme n'est plus là, bah, je ferai autre chose. J'ai d'autres passions dans la vie, pas aussi puissantes que celle de la musique, mais pour l'instant, elle est toujours là, vous inquiétez pas.
Et puis vous nous la transmettez. Merci beaucoup Léa Desandré, on vous souhaite plein de belles choses pour cette production à venir et tous ces projets pour 2025, sachant qu'il y a également Salzbourg où vous reviendrez pour la Pentecôte et pour l'été avec des nouveaux rôles, des prises de rôles.
Oui, je reviendrai cet été pour un pastiche de Vivaldi autour des Métamorphoses d'Ovide, dans une mise en scène de Barikowski avec entre autres Cecilia Bartoli et Philippe Jarouski. Voilà, donc j'y serai pour la Pentecôte, j'y serai l'été et je m'en fais toujours une joie. Ça fait 8 ans que je vais à Salzbourg tous les ans. Donc ça aussi, c'est une immense chance. Ça fait aussi partie de mon parcours. C'est, bah voilà, encore une fois, c'est fidélité avec les maisons. Et je m'en réjouis, c'est un lieu tellement inspirant. Donc voilà, on se retrouve là-bas.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci Laure.
Léa Desandré et Cecilia Bartoli réunis ici dans un air de Giuseppe de Bottis, un extrait de l'opéra Mytilène, Regina delle Amazzoni. Léa Desandré et Cecilia Bartoli qui se retrouveront cet été à Salzbourg pour chanter Vivaldi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucine Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons avec le pianiste François-Xavier Poisat qui vient d'enregistrer toute l'œuvre pour piano de Ravel. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.
Cette année, les Arts Florissants vous convient à une saison de célébration pour fêter en musique le 80e anniversaire de leur fondateur, William Christie. Vous pouvez, vous aussi, participer à l'aventure baroque des Arts Florissants, initiée par ce chef de légende, et contribuer à transmettre la passion baroque aux générations futures en soutenant la fondation Les Arts Florissants William Christie. Rendez-vous sur art-florissant.org, rubrique « Nous soutenir ».
Shostakovich, à l'Auditorium de Lyon. À la tête de l'Orchestre National de Lyon, Nathalie Stutzmann célèbre le 50e anniversaire de la mort du compositeur avec deux œuvres emblématiques. Le concerto pour violoncelle numéro 1, sous l'archet passionné d'Edgar Moreau, et la 5e symphonie, son œuvre la plus populaire, dont la remarquable tension émotionnelle se termine en un grand cri de rébellion et de victoire. Shostakovich, par l'Orchestre National de Lyon, les 19 et 20 décembre à l'Auditorium de Lyon.
Radio Classique présente Le dictionnaire amoureux du vélo par Éric Fotorino. Le vélo, à la ville ou à la campagne. Passionné par cet art de vivre qui compte de plus en plus d'adeptes, l'auteur vous plonge dans une balade au doux parfum de l'enfance. Côtoyez les grands cyclistes de notre époque, parcourez les routes du mythique Tour de France et vivez toute la passion du vélo. Le dictionnaire amoureux du vélo par Éric Fotorino aux éditions Plon. En vente partout et sur radioclassique.fr.
André Rieu revient en France. Le roi de la valse et son célèbre orchestre Johann Strauss sont de retour à Bordeaux, Lyon et Paris pour trois soirées magiques. Venez rêver au rythme du violon passionné et généreux d'André Rieu avec les plus célèbres morceaux du répertoire classique. André Rieu en concert à l'Arkea Arena à Bordeaux le 20 mars, à la LDLC Arena à Lyon le 21 mars et à l'Accor Arena à Paris le 22 mars. Réservation sur andrerieu.com et livenation.fr.
Alors, c'est l'histoire d'un Belge qui rencontre un Suédois, qui rencontre un Croate, qui rencontre un Danois, qui rencontre un Français, qui rencontre un...
Vivez la 6e journée de l'UEFA Champions League. Avec demain à 21h, Brest PSV Eindhoven sur Canal Plus Sport et Salzbourg Paris SG sur Canal Plus Foot. Et mercredi à 18h45, Lille Sturm Graz sur Canal Plus Foot, suivi d'Arsenal Monaco à 21h sur Canal Plus. Retrouvez l'intégralité des rencontres de l'UEFA Champions League sur Canal Plus Live. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Les variations de Francis Drezel.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ces variations sur Radio Classique. Merci à Laure Maison que vous retrouverez bien sûr demain pour son journal du classique, ou plutôt votre journal du classique. Et Christian Morin, ce matin même, dans Tous Classiques, vous annonçait l'anniversaire de deux très grands musiciens que nous aimons beaucoup sur Radio Classique, et ils font tous les deux d'ailleurs très jeunes. Alors il s'agit du violoniste Joshua Bell, qui est né à Bloomington, dans l'état de l'Indiana, le 9 décembre 1967, à qui sera consacré le disque portrait tout à l'heure, mais un an après, jour pour jour, le 9 décembre 1968, c'est à Paris que naissait Alexandre Tarot. Alexandre Tarot qui a notamment réalisé un très beau disque consacré à des pièces pour clavier seul de Jean-Sébastien Bach, des arrangements parfois, nous en écouterons quelques-uns. Mais pour commencer, je vous propose de retrouver Alexandre Tarot, interprète de Jean-Sébastien Bach, mais en concerto, avec le concerto pour clavier et cordes que l'on considère comme le numéro 7, le concerto BWV 1058, qu'Alexandre Tarot a enregistré au piano, comme d'habitude, avec les violons du roi dirigés par Bernard Labadie, c'était en 2010. Thank you. un joyau. Le concerto pour clavier et cordes numéro 7 de Jean-Sébastien Bach, ce concerto BWV 1058, enregistré au mois de septembre 2010 par Alexandre Tarot en soliste, au piano, avec les violons du roi, dirigé par Bernard Labadie. Et je vous le rappelais donc en tout début de soirée, non seulement c'est aujourd'hui l'anniversaire d'Alexandre Tarot, alors tous nos voeux naturellement, comme Christian Morin l'a dit ce matin, mais Alexandre Tarot a aussi réalisé tout récemment un très beau disque consacré à des pièces pour clavier seul de Jean-Sébastien Bach, alors soit composé à l'origine pour clavecin seul, ou différents chefs-d'œuvre qu'Alexandre Tarot a arrangés pour piano. C'est le cas par exemple de la très fameuse sicilienne de la sonate à l'origine pour flûte de Jean-Sébastien Bach, la sonate BWV 1031. Écoutons cette sicilienne jouée au piano par Alexandre Tarot. L'irrésistible sicilienne de la sonate à l'origine pour flûte et basse continue de Jean-Sébastien Bach, BWV 1031, sicilienne donc arrangée et jouée au piano par Alexandre Tarot. Cette sicilienne que les pianistes aiment beaucoup en fait, puisque Wilhelm Kempff notamment avait aussi signé un arrangement de cette même pièce qu'il avait très souvent enregistrée. Il y a un pari, je dirais un défi plus difficile qu'Alexandre Tarot a essayé de tenir dans ce même disque consacré à des pièces pour clavier seul de Jean-Sébastien Bach, c'est son propre arrangement du chœur d'entrée de la Passion selon Saint Jean. Alors là c'est vraiment un défi, écoutons Alexandre Tarot, toujours bien sûr au piano.
Thank you.
Eh bien, non seulement de nouveau tous nos vœux d'excellent anniversaire à Alexandre Tarot, mais un grand bravo pour cette difficile transcription, ce difficile arrangement du chœur d'entrée de la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach pour clavier, pour piano, et joué donc par Alexandre Tarot, qui a fait cet enregistrement en 2024, au début de l'année 2024. Superbe disque consacré donc à du piano solo, je dirais, de Jean-Sébastien Bach. C'est un disque qui connaît d'ailleurs un très grand succès mérité. Vous y trouverez aussi l'arrangement pour piano toujours, de la fameuse aria pour cordes de la troisième suite pour orchestre de Jean-Sébastien Bach. Alors là aussi, comme pour la sicilienne que nous écoutions précédemment, les arrangements sont très nombreux, par exemple pour violon et cordes. Et là, eh bien, nous allons écouter celui dont c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui, Joshua Bell, qui dirige de son archet les membres de l'Academy of St. Martin in the Fields.